Marie-Webb, Le précieux fléau. Livre 2, chapitre 9, Le jeu du conquérant. Le matin suivant, alors que je labourais avec Gédéon l'un des champs les plus éloignés, je remarquai dans une haie les chatons jaunes d'un noisetier. J'en cueillis pour en rapporter à la maison et les mettre dans un pot sur mon coffre au grenier. Mais, en attendant, je les attachais par brassées sur chacune des cornes des bœufs, si bien que durant toute cette journée où le temps avait été maussade, les bestiaux blancs qui grimpaient et descendaient le champ rouge, couverts par-ci par-là de givre blanc, paraissaient jaunes, avec ses plumes d'or, qui dodelinaient sur leur tête comme à la foire. Quand nous dételâmes, Gédéon dit « Qu'est-ce qui t'a pris de décorer le bétail ?»« C'est le jour de mai. » répondis-je. Gédéon parut perplexe, mais dit que je pouvais m'amuser un peu et qu'il n'avait pas à s'en plaindre puisque je travaillais bien. « Quand donc ces labours épuisants seront finis ? » dis-je. « Parce que je les détestais, non en eux-mêmes, mais parce qu'ils envahissaient toute notre vie, ne laissant plus aucune place à autre chose. » Lui, il n'avait la fièvre du labourage. De l'aube à la nuit, qu'il y eut du gel ou de la pluie, il était au champ, dur à la tâche. Et le champ donnait plus de mal qu'on en retirait de bien. Toute la ferme devait être en blé. Toute la grange devait être remplie de blé lors de la récolte. « Suffit de faire pousser du blé, avait-il dit, et on sera riche avant de s'en apercevoir. » Je n'aimais pas cette nouvelle loi sur le blé, qui le rendait si profitable. Dès qu'on en aura suffisamment, on s'en va, Prou. Et on reverra plus cet endroit, dit-il. C'est ce qui me chiffonne, lui répondis-je. Si encore tu te sentais fier de ta terre, je pourrais comprendre. Mais ça fait bizarre de mettre tout son temps et toute sa force sur cette propriété, comme une mère le fait pour son enfant, et de point l'aimer. C'est comme si la mère s'occupait de l'enfant. Non par amour pour lui, mais seulement pour le vendre. Ah, c'est bien ça, Prou. Je me fiche pas mal de la terre, comme je me fiche pas mal de l'argent, enfin, de l'argent lui-même. Ben à quoi tu tiens alors? À planter mes dents dans quelque chose de dur et à le mâcher, à tout conquérir, comme dans le jeu, jusqu'à ce qu'il reste plus un noyau, plus une coquille, qui soit pas un moi. À être le roi du pays et l'unique pomme qui reste sur la branche. Mais pourquoi donc, Gédéon? T'es toujours à me demander pourquoi. Parce que je suis fait comme ça, et qu'il n'y a pas à aller contre. On en revenait toujours à ça. Ce qu'il faut, poursuivit-il, c'est garder les bonnes personnes en haut lieu, pour que la loi change pas avant qu'on soit riche. On aurait dit que le gouvernement était sa marionnette. Elle devait faire sa volonté et lui remplir les poches. C'est qui, les bonnes personnes?
Celles-là même qui ont augmenté le prix du blé.
Mais les pauvres gens qui ont faim voudraient bien que le prix baisse.
Qu'ils te fassent le dos rond et supportent. Qu'ils travaillent. Moi, je travaille bien, non?
Ah, ils travaillaient, pour sûr. Il n'était qu'eau et muscles, et s'il était sans merci pour les autres, il n'était aussi pour lui-même en premier lieu. Je lui demandai s'il allait soutenir le châtelain, malgré les paroles de Mademoiselle Dorabella.
Ouais, faut bien. Il fait une grande quantité de blé sur ses terres, il laissera jamais les prix baisser.
Et ce sera quand que t'arrêteras de labourer?
Pas avant d'avoir acheté la maison et d'avoir mis de l'argent à la banque par-dessus le marché.
Mais quand tous nos champs seront labourés, sauf quelques prairies en herbe pour la nourriture des animaux, tu seras ben obligé de t'arrêter alors.
Non, si on fait pas assez d'argent, je prendrai sur les bois.
Oh, pauvre de moi, dis-je, car j'étais prête à pleurer. C'était pas de chance qu'il ait pensé au bois, parce qu'alors plus de repos pour aucun d'entre nous, puisque nous avions des bois tout autour de la ferme, et on pouvait y travailler jusqu'à la fin du monde. Des larmes coulèrent sur mes joues, et je les sentais glisser lentement, aussi froides que la lumière glaciale de cette soirée.
Qu'est-ce qui va pas? Dit Gédéon. Tu pleures. Mais quelle fille! Regarde plutôt que c'est pour notre avenir qu'on va travailler.
J'aime pas trop l'avenir, dis-je. C'est comme le pâté qu'on donne à Noël aux enfants de Lingford. On peut gagner quelque chose, mais la plupart du temps, on perd. Et lorsqu'on gagne, 9 fois sur 10, c'est pas ce qu'on aurait voulu avoir. Parce que de toute façon, ce qu'on veut n'est pas dans le pâté.
Ben, parbleu, en voilà un monceau de niaiseries. L'avenir est ce qu'on en fait.
Ben non, répondis-je. L'avenir, c'est cette jolie contrée bleue qu'aperçoit un voyageur à l'aube, alors qu'il ne sait pas seulement s'il se trouve dans une campagne accueillante, avec des fermes qui envoient de la fumée au coucher du soleil et offrent un repas à celui qui passe, ou s'il s'agit d'une lande sauvage où il mourra de faim et de froid avant le lendemain matin.
Quoi encore, dit Gédéon, t'es complètement gelé, c'est pour ça que tu divagues. T'as besoin d'une bonne tasse de thé fort avec un plat de patates au lard. Bah tiens, regarde, la mer avec un plateau.
Notre pauvre mère appréciait la compagnie quand le soir venait. Elle disait que les jours étaient si longs, passés à la maison dans le silence, et comme elle était craintive, elle sursautait à la moindre feuille qui tombe, au moindre craquement de porte. C'est souvent qu'elle me demandait d'arrêter de labourer pour rester un peu auprès d'elle. Mais j'avais promis à Gédéon de faire ce qu'il voulait. Aussi, pour lui faire plaisir, je lui inventais d'agréables récits sur ce que serait notre vie quand nous serions riches, avec des serviteurs et des servantes, une personne à la cuisine et plus de cochons à s'occuper. Son visage s'illuminait un peu, mais bien vite elle soupirait, et en hochant la tête, elle disait « C'est dans trop longtemps, trop longtemps. Je ne serai peut-être plus là. Je préférerais que les choses aillent un peu mieux tout de suite, ma chérie. J'en ai marre de m'occuper des cochons dans les bois. Debout, j'ai très mal aux jambes. Et assise, j'attrape des rhumatismes. Les cochons vont constamment barboter près de l'eau, et j'ai toujours les pieds trempés. J'aimerais mieux moins de servantes et de serviteurs dans les prochaines années et moins de cochons tout de suite. Tout cela, c'est pour beaucoup plus tard, et ça réconforte pas plus que les lointaines demeures du paradis. Dis-lui ça, Prou. Dis à Sarne, mon fils, que j'aimerais mieux déjà un petit quelque chose maintenant et pas tant de choses dans les années qui viennent. »
Oh, je lui dirai, mère, mais toi, tu dois penser au temps où on s'arrêtera de labourer.
Sarne n'arrêtera jamais de labourer. Ou s'il le fait, il se lancera dans quelque chose d'autre. C'est comme ça qu'il est. Il ne peut pas se reposer. Il est comme cet homme dans l'histoire qu'on raconte, qui devait apporter de terribles nouvelles à quelqu'un. Alors il a galopé à travers le pays, changeant sans arrêt de chevaux, ayant une seule obsession, arriver à destination. Et quand il y est arrivé, et qu'il a dit les nouvelles, il a gardé son idée fixe dans la tête. Il n'a pas pu s'arrêter. Usant ses chevaux de jour et de nuit, il galopait et galopait, mais sans nouvelles à donner et sans lieu où aller. Et il galope encore, qu'on dit. Je le dis, Prou, ça aurait été bien mieux pour nous et pour lui si mon fils Sarn était né idiot, jouant avec des galets de couleur, en enfilant des marguerites sur une cordelette.
Elle paraissait si étrange, debout là, dans le sillon, dans sa longue robe, et son châle rouge croisé sur la poitrine, avec la bouche tremblante et des yeux qui brillaient comme ceux d'un prophète. Les grands cochons maigres, grognant et reniflant autour d'elle, avec les dents de Sarne placées derrière elle comme la couleur bleue autour d'un personnage sur les vitraux à l'église.
Je me demandais s'ils avaient jamais mis des cochons sur des vitraux d'église, sur les illustrations du fils prodigue peut-être. Et je ne pus me retenir de rire me disant qu'il s'agissait là de la mère prodigue. Et comme on aurait pu se réjouir si Gédéon avait été un peu prodigue aussi.
Qu'est-ce qui te prend à rire, me dit mère.
Oh, juste que je pensais que tu étais une mère prodigue.
Je comprends rien. Je comprends aucun de mes deux enfants. Oh, pauvre de moi, je trouve que c'est pas gentil de rire quand moi je pleure.
Pauvre mère. Elle savait énoncer de sévérité par moments. Elle venait de formuler ce qui causait ma plainte contre ce monde. Lui qui riait, alors que moi, je pleurais.
Mais oui, j'en parlerai à Gédéon, dis-je. C'était une des choses curieuses entre nous, que je dusse être l'intermédiaire en transmettant à son fils les messages de mère. Elle ne trouvait jamais le courage de se lancer, ni d'affronter son froid regard d'acier.
Le lendemain matin, j'en parlais à Gédéon. Il était au champ avant moi, comme d'habitude. L'air était glacial et il y avait du brouillard. La terre labourée avait l'aspect de miroirs ternis ou d'un étang partant couvert. Elle brillait et ne paraissait pas solide. Là où le givre tenait, éclaboussé de soleil, les champs luisaient comme de l'eau scintillante. Gédéon et les bœufs arrivaient lentement, offrant dans la solitude des champs l'image d'une certaine force sombre. Cela me fit penser aux figurines sculptées dans du chêne noir sur le haut du pignon de quelque demeure de Lullingford, et qui se détachaient toujours très sombres face au ciel. La laine des bêtes et la transpiration de leur corps restaient figées autour d'elles et les enveloppaient complètement, si bien que, montant et descendant le champ, elles ressemblaient à un tableau rond que quelqu'un faisait mouvoir dans ses champs vides.
Gédéon, commençai-je, mère est pas très en forme. Elle a besoin de repos. Prends un gars pour s'occuper des cochons au bois.
Un gars? Quel gars?
Il y a le Tim du Meunier. Il a que 7 ans, mais il peut s'occuper des cochons. Et je lui offrirai le goûter.
Quoi?
Nourrir un grand gamin de 7 ans? Tous les jours de la semaine, sauf le dimanche?
T'es pas folle, Prou?
Mère se sent seule et elle est fatiguée. Elle a besoin de repos. Et aussi de compagnie dans ces années de vieillesse qui arrivent. Et d'un peu de confort.
Suis-je pas en train de travailler pour ça? Va-t-elle pas avoir des serviteurs et des servantes? Le meilleur des bonnes choses. Un banc à l'église et de la vraie porcelaine pour manger dedans.
Oh, dans les années à venir, si elle tient jusque-là, elle pourra pas. C'est maintenant que ça compte.
Mère a rien, elle se porte très bien. Elle prend le bon air en s'occupant des cochons. Et elle peut soigner ses rhumatismes près du feu le soir venu.
Mais elle se sent seule. Elle me veut plus à la maison.
Ben, tu y seras quand on aura fini les labours.
Les journées sont longues. T'as pas le choix. Tu dois trouver un garçon pour s'occuper des cochons.
Tu dois? Mais qu'est-ce que t'es pour me dire ça? C'est moi le maître de Sarne.
T'as pas le droit de conduire mère à la mort alors qu'elle est vieille et souffrante.
Gédéon me lança son regard foudroyant. Peut-être, commença-t-il lentement d'un ton acerbe. Peut-être que t'aimerais te marier et de cette façon ramener un gars à Sarne pour s'occuper des cochons. Mais c'est s'il y a quelqu'un pour vouloir de toi.
Il attrapa les manches de la charrue et descendit le sillon. Il me fallut un bon moment dans le grenier pour effacer ces mots, mais le charme qui s'y trouvait finit par les faire disparaître. Je mis tout cela sur le fait que Gédéon avait manqué de repos durant de nombreuses nuits, puisqu'on était encore en période d'agnelage. Cette période est une épreuve pour le berger. En pleine nuit, au temps mort de l'année, quand les lutins sortent, il doit être debout et tout faire tout seul.
couvert de brume comme d'un linceul, fouetté de vent froid comme d'un frisson de mort. Le berger marche dans la neige crissante, surpris par un cri d'un côté de la forêt, par un hurlement de l'autre. Il doit rester éveillé à l'heure où les bruits réconfortants du labeur journalier se sont tus, et, tandis que tout semble tranquille, les fantômes arrivent en force avec le vent d'est et celui du nord, sans qu'on puisse les conjurer. Aussi, quand Gédéon était dur avec moi, je me contentais de rester plus longtemps au grenier. On y était si bien, quand le printemps s'y invitait, avec une coupe de primrose sur la table, et la douceur du vent tiède qui s'y infiltrait. Quand avril fut là, nous étions encore en train de labourer, et j'y étais si habituée que cela ne me fatiguait plus autant. J'y trouvais même du plaisir, et je chantais quand j'étais seule. J'aimais voir le soc brillant comme de l'argent trancher la terre dure et tracer des sillons rouges. Quel bonheur de contempler au loin, au-delà de Lullingford, les collines bleues, de voir les bois de chênes, de mélèzes et de saules en bourgeons. C'est que le vent chaud y venait faire éclore les feuilles. Quel plaisir aussi de voir les corneilles me suivre sur les talons, semblant avoir été lustrées comme par du cirage noir, de retrouver les oiseaux qui avaient fui l'hiver et de réentendre le chant sauvage et doux du râle d'eau, tandis que le vanneau changeait son cri d'hiver en quelque chose de plus chaleureux. Il y avait maintenant des violettes à cueillir pour le marché, quelques jonquilles dans un coin sous le buisson de lierre, et des petits boutons roses serrés, comme des petites menottes de bébé dans les pommiers. Mère se rassérénait un peu, et un jour que nous prenions notre thé près de la fenêtre, avec un bouquet de giroflées sur la table, elle dit « On va faire venir le tisserand. » J'avalais de travers, et mère voulut savoir ce qui m'arrivait. « Oh, rien, rien du tout. Mais pourquoi pas le commis du tisserand ? Ce serait moins cher. Je veux un tissage de qualité. » J'en fus toute songeuse, parce que si Gaster devait venir tisser pour nous, il lui faudrait entrer dans le grenier, marcher tout autour de la machine, jeter un œil par ma petite fenêtre, faire de l'endroit un petit chez lui, de telle façon que j'aurais toujours un peu de sa personne par la suite. Malgré tout, je ne pouvais supporter l'idée qu'il pût me voir, et je plaidais pour avoir le commis, tant et si bien que Gédéon pensa que j'étais amoureuse du gars, bien qu'il fût connu pour être idiot avec 14 enfants par-dessus le marché. Mais mère mit ses lunettes et me considéra. Elle les réajusta et me regarda à nouveau, puis une troisième fois encore. « On va faire venir le tisserand, dit-elle, et ce fut tout. Ce fut le jour suivant que Jancis arriva en courant, tout échevelé, pour dire que Begildy allait la louer à la foire le jour de la fête de mai, sauf si Gédéon l'en empêchait. Elle était entrée dans la laiterie où je battais le beurre. Elle me dit « Oh, prou, le jeune homme est revenu et me veut, ou plutôt, c'est toi qu'il veut. » Elle eut un petit rire au milieu de ses pleurs. Et père a dit que c'était ça ou la foire. Ce sera 3 ans, prou. Je suis bonne pour être laitière ou femme de cuisine pendant 3 ans. À moins que Gédéon ne me demande en mariage maintenant. Gédéon ne voudra pas, ma chérie. Il a qu'une idée fixe, labourer. Rien le détournera de ça. Mais je l'en empêcherai pas. Tu seras une bouche supplémentaire à nourrir. Et si tu tombes malade? Ça arrivera pas. Je suis plus forte que j'en ai l'air. Tu peux pas savoir. Quand on se marie, on joue au jeu de Colin-Maillard, qui mène on ne sait pas où. Et si des petits arrivent, que deviendra l'argent de Gédéon? Oh, pauvre de moi, je ne peux pas le supporter, Prou. J'aime vraiment Gédéon. Et si on se sépare, ce sera affreux, comme si on s'était jamais rencontrés.
Bon, parle-en à Gédéon, alors.
Et tu pourrais pas lui en toucher un mot pour moi?
Si tu veux, mais
s'il ne le fait pas pour toi, qui lui est si cher.
Il le fera pas pour moi, qui suis que sa pauvre sœur.
C'est alors que Gédéon traversa la cour pour venir chercher du petit lait pour les cochons. Il se tenait là, sur le seuil de la laiterie. Et je me disais qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce que Jancy s'en soit amoureuse. Parce que dans sa blouse et sa culotte en cuir, tête nue, les cheveux noirs et ses yeux étincelants sur Jancy, il était le plus bel homme que l'on pût trouver dans 10 paroisses à la ronde.
Je remarquais en même temps, en regardant la laiterie, qu'elle était aussi propice que n'importe quel autre endroit pour une demande en mariage.
Le soleil y pénétrait de biais, alors que le reste de la journée, il n'y venait pas. Les dalles rouges humides et les grosses terrines brunes offraient leurs couleurs chatoyantes, tandis que la crème et le beurre dans leur teinte ambrée étaient, avec les fromages empilés, aussi brillants que des boutons d'or ou des brumes roses. Jancy s'était assortie à l'endroit, avec ses beaux cheveux blonds et son visage qui avait rosi à la vue de Gédéon. Dans sa robe rose, elle faisait penser à une rose. Dehors, de l'autre côté de la fenêtre, dans l'églantine aux boutons roses, une grive chantait. Je m'en souviens très clairement et ne pourrais l'oublier, même si je ne l'avais pas écrit dans mon cahier.
« Te v'là bientôt, » dit Gédéon.
« Et bienvenue ?»«
Bien sûr que t'es la bienvenue. »
Elle me regarda malicieusement, comme pour me demander si ça ne me dérangerait pas, et se mit sur la pointe des pieds pour que Gédéon pût l'embrasser. « J'apporte des nouvelles, » dit-elle. « Des bonnes ou des mauvaises, ça dépend de toi. »«
De moi ?»«
Eh oui, voilà ça. Père dit que je dois... » Elle me regarda embarrassée.
« Begidi veut vendre son enfant, Gédéon. Pourquoi minimiser les choses ?»«
Il veut la vendre au jeune Camperdin pour son plaisir. »
Jancy se cacha le visage dans les mains.
« Et si elle refuse, comme elle l'a fait, elle sera louée à la fête de mai, pour 3 ans, comme femme de cuisine. »«
Quoi ? Vendre ma fiancée ? Begidi veut vendre ma fiancée ? Sacrebleu ! Je vais le noyer pour ça. »
Il ne l'a pas encore vendu, j'ai dit.
Tant mieux pour lui.
Mais elle devra faire l'apprenti pendant 3 ans, quelque part au-delà de Lingford. Gédéon se pencha et écarta les mains de Jancy, la regardant brutalement.
« Est-ce que t'es restée une femme pure pour moi ?» demanda-t-il. « Sacrebleu, si tu as perdu ta virginité pour le jeune Camperdin, je vais la battre à coups de hache. Et toi, je t'étrangle. »
« Mais non, Sarne. Mais non, non, Sarne. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, » dit-elle en pleurant. « J'étais loyale envers toi, Sarne, je t'assure. » Mais qu'est-ce qu'elle doit faire, Gédéon? Parce qu'à moins d'être le jouet du jeune homme, elle sera obligée de s'en aller loin. « Je supporterai pas de partir loin, » dit Jancy.
Et elle éclata de nouveau en sanglots. J'attendais que Gédéon dise quelque chose, mais il se taisait.
« Il y a une autre solution, Gédéon. »
J'essayais d'être persuasive, parce que je sentais que le moment était venu pour lui de faire le choix qui les engagerait tous les deux. Il était en leur pouvoir ce jour-là d'opter pour la bonne voie. Ce fut dans la vie de Gédéon un de ces jours où il pouvait se prononcer en faveur de la bénédiction pour lui et prendre le chemin de l'amour et des jours heureux, sur lequel poussent les jolis coucous, ces clés du paradis. Ou bien prendre l'inquiétant chemin plein de détours qui cache cette chose terrible, ce fléau, ce poison qu'est la richesse, et qui se nourrit de sang.
John 6 aussi semblait se rendre compte que leur vie, d'une certaine façon, dépendait de cette heure. Elle se pencha et lui embrassa la main. Elle lui demanda d'une voix douce, implorante, « Oh, sois mon amoureux, Sarne !»
Gédéon émit une sorte de gémissement. « Je devine où tu veux me tirer, Prou, » dit-il, « avec tes yeux plantés dans les miens. Tu veux me pousser vers la pauvreté et l'abandon de tous mes rêves. »
« Je travaillerai pour deux, mon gars, » lui répondis-je.
« Quel intérêt? Tu sais bien ce qui va arriver. Y a-t-il un seul homme capable de faire autrement avec une aussi belle personne pour femme ? Y aura des bouches à nourrir, des bouches à nourrir. Fini à jamais la grande demeure, les serviteurs, les servantes, le banc à l'église. Plus d'argent pour toi, plus de balles pour Jancis. Plus de familiarité avec la noblesse du coin pour moi. Si jamais on faisait de l'argent à nouveau, ce serait pas avant des années et des années. Nous perdrons la maison et poursuivrons petitement, mangeant à mesure tout ce qu'on fera comme argent. Un homme avec une femme et une famille peut pas s'en sortir. Il doit s'enrichir d'abord.
Mais tu travailleras mieux si tu es heureux, avec Jancis heureuse avec toi. Tu crois pas?
Ben non. Bonheur et oisiveté vont de pair. Si tu veux travailler, faut être ni heureux ni malheureux. Faut pouvoir penser qu'au travail et à rien d'autre. De plus, si maintenant j'enlève Jancis des griffes du jeune Camperdine, qui la désire tant, il m'en voudra et mettra toute la noblesse contre moi. Quoi qu'il est arrivé pour rendre cet homme si fou de désir, c'est fait maintenant. Et il faut faire attention.
Il jeta un œil soupçonneux sur Jancis, qui me supplia du regard de tout lui expliquer.
Mais cela, je ne pouvais pas le faire.
J'aurais fait beaucoup pour elle, mais là, c'était trop. Parce que je craignais que le peu que je dirais aille aux oreilles de Kester Woodsies.
Jancis avait promis de ne rien dire à personne sauf à Gédéon en cas de nécessité absolue. Aussi restais-je silencieuse. D'ailleurs, je ne voyais pas ce que ça changerait, car révéler la chose n'aurait servi à rien. Bégil dit, ayant son idée fixée à propos de Jancis, et si ce n'était plus le jeune châtelain, ce serait un autre. Il valait mieux que Gédéon décidât une fois pour toutes. Et s'il faisait le bon choix, Jancis et lui seraient mariés, et Bégil dit n'aurait plus aucun pouvoir sur sa fille.
Ça repoussera un peu le moment d'être riche, Gédéon, dis-je.
Non, ça le repoussera pour toujours. La chose qu'il vaut mieux repousser, c'est le mariage. On attendra 3 ans, ça donnera le temps de se retourner. C'est pas que je veuille le repousser.
Il sombra dans le silence, les regards sur Jancis. De son visage, je voyais sourdre le désir et tout son corps tremblait. Il était bien étrange de voir un pareil gaillard frissonner comme une femme qui vient de voir quelque chose d'effrayant. Il avança d'un pas vers Jancis et j'allais sortir, me disant qu'il allait la prendre dans ses bras et que tout serait pour le mieux. Quand soudain il balbutia
« Non, non »
et recula. Puis il dit
« T'auras pas ta robe de satin pour danser avec M. Roger au bal des chasseurs, Jancis. T'en seras bien ennuyé. »
« Ah ?
Bon, si tu fais femme de laiterie ou autre chose, ça te fera envie aussi bien qu'à moi. 3 ans, c'est pas long. Au bout des 3 ans, toute la terre labourée rapportera bien, et on récoltera ce qu'on aura semé.
À Dieu ne plaise, dis-je.
Gédéon se mit dans une rage folle. Je n'ai jamais su pourquoi, et éclata.
Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Je serais bien content de récolter ce que j'ai semé.
Mais pas si c'est le poison, Gédéon. Pas. Si c'est le précieux poison dont parle le livre que le pasteur m'a prêté, tu veux pas, au milieu de ton blé, cette malédiction qui pousse en enfer.
Note de la traductrice. Le livre en question, ici, est « Paradis perdu » de John Milton, où un passage dit, selon la traduction de Chateaubriand,
Personne ne doit s'étonner si les richesses croissent dans l'enfer. Ce sol est le plus convenable au précieux poison. Fin de la note, retour au texte.
Mais pas si c'est le poison, Gédéon. Pas si c'est le précieux poison dont parle le livre que le pasteur m'a prêté. Tu veux pas au milieu de ton blé cette malédiction qui pousse en enfer?
Quoi que ce soit, répondit-il, si je le sème et que ça m'apporte ce que je veux avoir, je l'accueillerai bien.
Alors on entendit le petit bruit d'un sanglot venant de Jancis. Et comme je la regardais, je vis derrière sa chevelure dorée la belle journée de printemps évanouie et l'églantier secoué par une bourrasque de vent. « Tu ferais bien de rentrer, ma chérie, lui dis-je. Une tempête se prépare. »
« Je viendrai chez toi dimanche pour dire à ton père ce que je pense de lui, dit Gédéon.
« Non, non, ne le mets pas en colère. »«
Je me fiche de sa colère. »
« Oh !» se mit-elle à dire en pleurant. « Il n'y a rien comme je voudrais. Pourquoi les gens peuvent pas vivre tranquilles et en paix? Pourquoi t'es si têtu, Sarne? Écoute, comme le vent augmente. Ça présage quelque chose. »
Elle se remit à pleurer et se cacha le visage dans son tablier.
« Oh, je voulais envoyer les invitations et publier les bans à l'église, dit-elle,
du temps qu'elle prenait pour dire
« Oh, je voulais jouer au gravier vert. »
Gédéon la saisit contre lui et l'embrassa, mais il ne changea pas d'avis, une fois qu'il avait une idée en tête. Rien ne pouvait plus l'en écarter.
« Il faut que je parte, dit-elle. Tu m'accompagnes, Sarne ?»
Comme ils étaient en chemin, je la vis se tordre les mains, et j'entendis qu'elle disait « Oh, je vois une route sombre qui descend dans l'eau. »
Et le soleil est parti.
« Oh, Sarne,
ne me fais pas prendre cette route. »
En moins d'une minute, elle s'évapora sous l'orage comme un fantôme dans les sombres bois sauvages.